Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Mario Dumont.
Il analyse l'actualité et sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Cube Radio.
Vous avez peut-être vu cette histoire aujourd'hui dans le journal. Vous avez peut-être regardé aussi le reportage de 60 Minutes hier aux États-Unis. Mais c'est une histoire qui était diffusée aux États-Unis, mais qui concerne le Canada. Je fais appel à votre mémoire. En l'automne 2018, il y a un journaliste d'origine saoudienne, Jamal Khashoggi, dont on a beaucoup parlé parce qu'il a été assassiné à l'ambassade à Istanbul, là, à l'ambassade saoudienne à Istanbul. Et ce même automne, en fait, dans le même mois, il y a aussi des gens, des services secrets toujours du prince saoudien, qui se seraient rendus, selon le reportage, là, à Ottawa. 6 personnes étaient envoyées et donc ont menti aux douaniers canadiens et ont essayé, s'en venaient commettre un meurtre, s'en venaient assassiner quelqu'un au Canada et auraient été retournés. Donc, il semble que les services frontaliers canadiens soit se sont doutés de quelque chose et donc ne les ont pas laissés passer. Mais c'est quand même un peu ahurissant. Tu dis, OK, on a vu ça à Istanbul, mais il y avait une deuxième équipe qui s'en venait pour assassiner quelqu'un, un Saoudien, évidemment, mais en sol canadien à Ottawa. On en discute tout de suite avec Sami Aoun, professeur à l'Université Sherbrooke, directeur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient à la chaire Raoul Dandurand. Bonjour, professeur Aoun.
Bonjour.
Vous êtes étonné de cette histoire?
Non, on avait déjà eu un parfum un peu de ce qui arrive entre le nouveau prince héritier Mohammed bin Salman et certains membres de sa famille, son cousin, particulièrement Mohammed bin Naïf, qui a été lui-même héritier, prince héritier, lors du nouveau mandat royal. Et à ce moment, on a compris qu'il y a eu des tensions entre les deux cousins. Et aussi, le cousin a été éliminé, même il a été mis en surveillance pour mille et mille raisons. Encore aussi, le prince héritier MBS, comme il est bien connu, aussi a imposé sur beaucoup de membres de sa famille une réclusion et il a voulu qu'ils payent leur dû des impôts, des taxes, mais aussi pour les affaiblir politiquement. Dans ce sillage, on a compris aussi, il y a quelques 2 ans à peu près, que ce monsieur, Saad El-Jabri, qui était l'homme fort des renseignements et un bon interlocuteur avec la CIA particulièrement, aussi lui-même a été comme disgracié parce qu'il était très loyal à ce Mohammed bin Naïf, le prince déchu. Alors, en ce sens, on a compris qu'il a quitté le pays.
Ouais. Parce que c'est évidemment, on est étonné, on dit OK, il envoyait 6 personnes pour l'assassiner, ça paraît gros, mais quand on voit ce qui s'est passé à Istanbul, on dit là-bas, ils l'ont fait, là, Jamal Khashoggi a été exterminé, là, carrément.
Oui, vous avez bien raison. Si on se fonde sur un autre cas, ça devient plus probable. Mais ici, il y a la responsabilité du gouvernement canadien, et c'est des instances de renseignement et de sécurité ici, de trancher. Est-ce que c'est simplement une tentative de la part de ce dissident de se porter en victime, quelque chose, ou de se protéger avec cette rumeur, ou pour de vrai, il y avait quand même une intention assez bien déterminé de le liquider. Alors,
Le gouvernement canadien confirme qu'il y a effectivement des hommes saoudiens qui arrivaient dans ce mois d'octobre 2018 à l'aéroport d'Ottawa et qui ont été retournés. Ils ne veulent pas dire qui, quoi, pourquoi, comment, mais voilà. Confirme en tout cas l'existence d'une partie des faits, là.
Ce qui est incriminant pour le pouvoir saoudien et particulièrement pour le prince héritier, si cette version vraiment est bien confirmé. Alors, l'autre point qui est important aussi, que oui, il y a différentes dissidences dans le royaume saoudien. Il y a des dissidents qui faisait partie du sérail, qui faisait partie soit de la famille royale, soit leurs adjoints et leurs assistants. Alors, ce sont des gens qui sont pro-régime, mais qui ont eu des conflits. Dans le cas de Jabri, le conflit, autre que la question de l'argent et l'accusation de fraude et autres, il y avait des conflits sur la transition au pouvoir et aussi sur la guerre du Yémen que le prince Mohammed bin Salman a pris d'une façon un peu téméraire et aventurière de s'engouffrer dans cette guerre. Et il y a la partie aussi des dissidents ou des opposants qui sont libéraux. Nous avons quand même une famille ici, Insaf Haidar, l'épouse du libéral Raif Badawi. Alors, cette catégorie de opposants que j'appelle maintenant des libéraux, alors ces gens aussi critiquent les deux à la fois. Ils critiquent le dissident du régime, M. Al-Jabri, et ils critiquent encore le prince héritier. Parce que, à vrai dire, Al-Jabri n'a pas fait une révision ou un examen de conscience ou mea culpa, parce qu'il a été dans le régime depuis au moins 20 à 22 ans. Alors, en ce sens, les opposants libéraux ne lui donnent pas confiance et n'acceptent pas qu'il soit simplement un prisonnier, un réfugié politique, et il gomme son passé où il a été lui-même un partenaire important dans le régime et dans la
politique. Et donc, a participé probablement à plusieurs actions qui contrevenaient elles-mêmes à toute forme de droit de l'homme, là.
Oui, vous avez bien raison de le signifier comme ça. Et surtout, et l'autre part, c'est que le prince héritier joue sur plusieurs tableaux. D'un côté, il est le réformateur, le modernisateur du royaume. Il y a le Neom, cette grande ville gigantesque où il va bâtir quelque chose de futuriste là-dedans. Et il y a, par exemple, une certaine ouverture sur des mœurs occidentaux, ou ce qu'on connaît.
Mais quand il est arrivé au pouvoir, là, il était bien fier. Un de ses premiers gestes, il a donné le droit de conduire une voiture aux femmes. C'était un geste d'ouverture.
Il les a mis en prison, les autres, hein, celles qui ont réclamé. Hein. Il a joué les deux.
Ah oui?
Maintenant, celle qui a le plus réclamé, elle est maintenant presque en prison ou elle est sanctionnée.
Donc, il a emprisonné la militante qui demandait pour les femmes le droit de conduire un véhicule. Elle, il l'a mis en prison, mais il a donné le droit aux femmes. Donc, il lui a donné raison sur le fond.
Et c'est ce qui est un peu paradoxal.
Ouais.
Il a ouvert maintenant une possibilité d'avoir, comme le Cirque du Soleil, comme d'autres bandes musicales, des divas d'ici et là du monde. Aussi, il a ouvert un beach party, aussi une plage où il y a de la mixité, sans la boisson, certainement sans l'alcool, mais il y a de danse selon les musiques occidentales et autres. Alors, il y a les différentes facettes. Même au niveau de G20, par exemple, il va réclamer, il y a quelques heures, que lui, il vise la neutralité carbone de l'Arabie Saoudite d'ici 2060, si je ne me trompe pas. Alors, voilà, c'est un homme qui est dans le pattern de beaucoup de réformateurs musulmans, qu'ils soient dans l'histoire, qu'ils soient actuels. Il croit avec la poigne, il peut faire de la réforme, mais en même temps, il devient autoritaire.
Et tolère aucun opposant, là.
Justement. Et c'est ce que je souligne un peu dans la déclaration de M. Al-Jabri quand il dit que c'est un psychopathe. Ça, c'est trop dire pour un prince saoudien, parce que, après tout, la monarchie était plus en douceur avec les opposants. On achetait la paix avec eux, on les invitait à la fermer tranquillement, mais il n'y avait pas beaucoup dans leur histoire d'effusion de sang. Cette fois-ci, c'est quelque chose qui est nouveau, qu'un prince au pouvoir soit qualifié d'être psychopathe et assassin.
Sami Aoun, merci d'avoir été là.
Je vous en prie.
Au revoir. Professeur à l'Université de Sherbrooke, directeur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient à la chaire Raoul Dandurand.